Il y a quelques semaines, alors qu'on était en pleine conférence de rédaction, à réfléchir aux émissions étranges qu'on allait pouvoir proposer pour cette journée de la radio, le mot « urbex » a été prononcé. Je ne sais plus vraiment par qui, mais un peu à la volée, comme on coucherait une idée sur un bout de papier, sans forcément la conserver précieusement. En tout cas, ça a déclenché une envie, parmi ceux et celles d'entre nous qui étaient au studio ce soir-là. Et on s'est dit pourquoi pas. Si je suis honnête, à ce moment-là, je n'envisageais pas vraiment de faire partie de cette expédition. Pas que je ne sois pas tentée par l'aventure de manière générale, mais l'aspect illégal me faisait un peu frissonner. Mais bon, pas de risque pour moi puisque je ne comptais pas y aller. Et comme presque à chaque fois qu'on prépare un direct ou une journée de la radio, le temps a filé très vite, bien plus vite que prévu, et on s'est retrouvés à être 2 semaines avant sans rien. Pour avoir bonne conscience, j'ai relancé le projet sous la conversation, aussi pour savoir où ça en était. Et là, Victor a proposé de le faire pendant les vacances, à Saint-Étienne. Et quand il a demandé qui était disponible, j'étais la seule. J'ai vite compris que j'allais devoir me mouiller, mais une fois l'appréhension de l'inconnu passée, je me suis dit que ça allait pouvoir faire un reportage sympa. Du coup, je vous emmène avec moi dans ma découverte de l'urbex.
Mesdames et messieurs, nous rappelons que vous avez pris place à bord du TGV Inouï 6685 à destination de Saint-Étienne à Châteaucreux. Notre TGV sera sans arrêt jusqu'à Saint-Étienne. Châteaucreux, son terminus. Nous vous rappelons également que seuls les détenteurs de titres de transport TGV sont autorisés à emprunter ce train. Merci de votre attention. Notre train partira à 15h06. Nous invitons éventuellement les personnes accompagnant les voyageurs à bien vouloir descendre. Mesdames et messieurs, notre train va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
Attention au départ. L'aventure allait pouvoir commencer. Une fois arrivée à la gare, j'ai retrouvé Victor, et on a marché un certain temps, jusqu'à arriver dans une rue, ma foi, assez lambda, toujours au cœur de la ville. Et on a fini par s'arrêter devant un portail gris, qui faisait à peu près 2 fois ma taille. Alors, certes, je ne suis pas très grande, mais le détail compte, parce que quand j'ai compris qu'on allait devoir l'escalader, à la vue et au-dessus de tous, ou au moins des habitants et habitantes de la rue, avec un enregistreur à la main, j'étais pas très sereine. Mais on a réussi à escalader, et une fois passé de l'autre côté, c'est là que j'ai réalisé que le terrain était bien plus grand que ce que je pensais. Face à nous, on avait une sorte de terrain vague, avec 2 grands bâtiments d'un côté et de l'autre, dont un avait presque une forme de tour, plus en hauteur que le reste. Alors qu'on se dirigeait vers le premier bâtiment, sur notre droite, je demandais à Victor quels étaient ces bâtiments, quel était ce lieu, qui m'explique un peu leur histoire.
Parce que du coup, il y a deux gros bâtiments et des plus petits aussi. Celui-là était ouvert avant.
Bah là, tu peux voir l'intérieur.
Parce que à la base, c'était quoi comme bâtiment?
C'était l'usine de fabrication de machines-outils. En tout cas, c'est ce qu'on a déduit en trouvant les quelques documents qui restent. Okay. On avait beaucoup de plans de fraises, ce genre de trucs.
Bon, comme vous l'avez entendu, en fait, on n'en sait pas grand-chose. On en reparlera plus tard, mais sur certains lieux d'urbex, on peut parfois trouver des documents qui aident à comprendre, même si, évidemment, ça ne fait pas tout. Victor m'explique que, dans cette même ancienne usine de fabrication d'outils, ils ont découvert une sorte de salle de concert, plus ou moins clandestine.
Il y a ce qui semble être une ancienne salle de concert clandestine. Le temple de Satan, que ça s'appelait. Genre, on est venu, il y avait... Genre, les murs, les portes étaient renforcées avec des matelas. Il y avait genre une vieille estrade faite de trucs de fortune, un vieux bar sur les anciens établis, des gros caddies de bouteilles vides,
ouais. Des
tracts de concert, c'est un truc de dingue.
Comme Victor le précisait, ce bâtiment était encore ouvert avant. Parce que oui, la surprise qu'on a eue quand on est arrivé, c'est que l'entrée de ce bâtiment avait été scellée par une sorte de plaque de métal. Moi, je me suis directement dit que c'était mort. Mais Victor a tranquillement sorti un outil de son sac, une sorte de couteau suisse mais sans couteau, avec simplement plein d'embouts différents. Et même si la serrure n'était pas des plus classiques, il a quand même essayé de l'ouvrir en faisant quelques manipulations.
Parce que du coup, là, sur le carquois, c'est de regarder si on peut. J'en arriverai à crocheter ça.
Je vais pas faire de miracle, mais c'est pas impossible. sens pas le loquet ou quoi. C'est un type de serrure que j'ai jamais vu.
Ouais. À ce moment-là, on se dit qu'on essaiera plus tard de trouver notre entrée. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je ne mesurais pas. Mais très souvent, les lieux d'urbex ont plusieurs entrées et sorties. Et c'est d'ailleurs quelque chose que Victor me conseille de repérer très rapidement. Qu'il s'agit presque de la première règle de l'urbex. Savoir par où s'enfuir s'il y a un problème. J'étais pas hyper rassurée. Mais bon, est-ce que la peur ne fait pas un peu partie de l'aventure et de l'essence même de l'urbex ? Comme on ne savait pas si on pouvait y entrer, je lui ai demandé de me décrire l'intérieur de cette première usine.
Et parce que là, par exemple, parce que du coup, je ne sais pas si on arrivera à entrer dedans, mais par exemple, tu pourrais te décrire, en tout cas, comme tu es déjà allé, enfin, globalement, quoi ça ressemble, parce que si tu peux y arriver,
Alors, là, tu vois, l'entrée, c'est clairement le bordel, en fait, hein, c'est déjà une bonne définition générale du truc. Par là, t'as un truc qui descend, il y a des gens qui avaient déjà fait des feux, comme ça. Okay. Des feux. Tu peux monter en haut, on n'est jamais là-dessus parce que ça n'a pas l'air très simple. Si tu vas sur le côté, enfin, en dessous, t'as des salles un peu souterraines, enfin, pas souterraines, sans fenêtre, où on suppose qu'il y avait des bureaux avant, parce qu'on trouve le papier. En haut, il y a d'autres bureaux ou quoi. Il y a une espèce de... Il y a un truc qui a brûlé, là. Il y avait un escalier en bois qui a brûlé.
Okay.
Enfin, non, il y a un escalier en fer qui a rouillé à cause du bois qui brûlait à côté. En haut, il y a en fait des anciens bureaux avec des fenêtres. Apparemment, il y a des gens qui ont aussi déjà dormi ici, parce qu'en gros, il y avait de la laine de verre arrangée, vraiment comme un lit avec la couverture qui vient de s'enlever. Donc, on suppose qu'il y a des gens sans abri qui ont dormi ici.
Un gros bordel, je crois que ça décrit assez bien le sol de l'usine. C'est d'ailleurs aussi le cas de la deuxième, une usine qui servait à fabriquer des trains, comme le lieu est situé pas trop loin de la gare, où là aussi, le sol est jonché de choses assez variées.
Pareil pour décrire, là au sol, c'est un mélange de feuilles mortes, de plantes de déchets, j'imagine de gens qui squattent, il y a des poutres, de la laine de verre.
Encore de la laine de verre, oui. Je crois que ça fait partie des choses que j'avais pas anticipé voir ici, et encore moins en aussi grande quantité. Mais tout simplement parce que ça pose la question de qui sont les personnes qui viennent sur ces lieux. En total néophyte, j'imaginais principalement des jeunes, venus là pour se faire peur, entre potes, voire pour taguer un peu. J'occultais là toute une partie de la population de ces lieux étranges, les squatteurs. Les squatteurs, ça veut un peu tout et rien dire. Ça va de celles et ceux qui viennent ici pour consommer de la drogue, voire pour la dealer. Ça comprend aussi celles et ceux qui sont de passage, vagabonds, nomades, qui trouvent refuge dans ces lieux abrités de la pluie et des regards pour une nuit ou deux. Et puis, il y a tous les sans-abri, les SDF, peu importe les noms qu'on leur donne. De celles et ceux qui restent là longtemps. On apprend presque à reconnaître quand on vient ici régulièrement. Enfin, je dis ça, mais les squatteurs sont plutôt là le soir, une fois la nuit tombée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en ville, il est assez rare d'aller faire de l'urbex la nuit, m'explique Victor.
Quand on me parlait par message pour organiser le truc, tu me disais on peut passer de nuit, parce que globalement, les gens ils font de l'urbex plutôt la nuit, plutôt la journée.
Bah déjà, si les gens squattent, ils squattent plutôt la nuit. Donc on évite de les déranger, puis on va pas non plus être complètement en bisounours. Il y a des gens qui squattent, qui craignent un peu. Des gens qui des fois sont pas nets sur les drogues ou quoi. Donc c'est plutôt la nuit vu que ils squattent pour dormir, quoi. Donc on évite. Et puis on voit moins bien la nuit. C'est aussi. Faut réussir à bien voir, avoir une bonne vision. Awareness, je sais pas comment dire, mais genre. Une bonne conscience de ton environnement, et c'est pas quelque chose que t'as forcément la nuit.
Ne pas déranger les squatteurs, quels qu'ils soient, c'est la deuxième règle de l'urbex. Dans ces lieux étranges, où populations différentes se croisent à différentes heures de jour et de la nuit, les activités sont variées et parfois surprenantes. Quand je demande à Victor une des choses étranges que lui ou des proches ont pu voir en urbex, des rencontres étranges, il me raconte cette fois où des amis ont surpris des SDF en plein rapport sexuel.
Une fois, dans un gymnase abandonné, des potes sont tombés sur 200 abris qui baisaient. Et c'est arrivé plusieurs fois dans le gymnase. Ils se foutaient réellement en soi là, enfin des fois ils me parlaient. Ce qui était un petit peu bizarre comme expérience, c'est que des fois après on trouvait des capotes par terre. C'est bien qu'ils se protègent.
D'ailleurs, les SDF ne sont pas les seuls à profiter de ces lieux insolites. Victor me raconte aussi la fois où il a surpris des jeunes qui devaient eux aussi explorer les possibilités de fantasmes qu'offrent de tels lieux abandonnés.
On a croisé un gars et une meuf qui, vu la couleur de leur teinte, était probablement en train de ken. Enfin, vu la couleur de leur teinte et le fait qu'ils étaient exceptionnellement gênés de nous voir débarquer, des fois, Ça arrive plus souvent qu'on le croit. Puis eux, c'était des gens, pas des sombrides, c'était des gens. Des lycéens. On était déjà, enfin, genre, on était lycéens, mais bon, pas des lycéens. Et ça arrive plus souvent qu'on le croit. Il y a des gens que ça doit. Enfin, je sais pas si qu'ils ont eu par ailleurs ou si c'est juste que ça les fait briller ou de faire là-dedans, mais voilà.
Mais revenons au présent. Une fois qu'on a compris que la porte de la première usine était définitivement scellée, on s'est dit qu'on allait explorer la deuxième usine, celle qui servait à fabriquer des trains. Mais pour ça, il ne suffit pas de suivre un chemin sagement tracé par les allées et venues des visiteurs. Comme dans n'importe quel lieu duquel l'être humain est parti, dans sa grande majorité, du moins, la nature a repris ses droits, et la végétation, dense et variée, nous fait obstacle. On se retrouve à devoir écarter branchages en tout genre, à traverser ronces et autres plantes pas des plus bienveillantes, à enjamber des grosses branches tombées au sol. Et je comprends pourquoi Victor m'avait demandé de venir habiller avec des vêtements qui ne craignent rien. Et je n'étais pas encore au bout de mes surprises. Ça aussi, c'est plus ou moins une règle en urbex, ou au moins un conseil. Ne pas tenir aux vêtements qu'on porte. Le risque qu'ils se fassent abîmer par l'environnement, voire carrément arrachés, si on doit partir dans la précipitation, est assez grand. On finit par arriver à l'entrée de la deuxième usine. Cette fois, pas de problème pour entrer. Il n'y a plus de porte. Je crois que ce qui me frappe en premier, c'est la surface qui s'étend devant mes yeux. L'espace est immense. Je fais face à des centaines de mètres carrés, à l'intérieur desquels il n'y a plus rien. Seuls les poteaux qui soutiennent le toit et les anciens compteurs électriques nous permettent d'imaginer un peu plus facilement ce qu'il a pu se passer ici, quand l'usine était encore en activité. Ce qui me frappe aussi, c'est la lumière. Dans mon imagination, l'urbex était synonyme de sombre, peut-être parce que caché et pas toujours fait sous un grand soleil. Mais là, ce n'est absolument pas le cas. On commence à se balader dans cet espace immense, et le bruit de nos pas sur les déchets au sol, mêlé au bruit que font les oiseaux en gazouillant, donne à ce lieu une nouvelle vie, bien différente de la précédente. Une fois qu'on a exploré l'entièreté de cette première salle, Victor me propose de monter à l'étage. À ce moment-là, je ne mesure pas vraiment ce que ça signifie, ni comment on va procéder. Là encore, pour atteindre l'endroit où un escalier nous attend, il faut enjamber, poutres tombées au sol, esquiver les branches, qui sont de plus en plus grosses, et pourraient nous faire mal si elles griffaient nos visages. J'apprendrai plus tard que si on a dû autant se baisser, et éviter autant de poutres en travers de notre chemin, c'est que quelques mois avant, il y avait encore un plafond à cet endroit-là, et qu'un feu a fait s'effondrer cette partie de l'étage. Tant bien que mal, on se retrouve face à un escalier de pierre, qui me fait penser à ceux de vieux immeubles d'habitation, et non pas à ceux d'une usine. Une fois à l'étage, Victor veut me montrer le balcon, qui donne une vue sur les ruelles entour. Mais pour ça, il faut passer à travers le cadre d'une fenêtre, à côté de laquelle se situe un trou d'un mètre de diamètre, où le sol s'est effondré, et dont les débris reposent 3 mètres plus bas. Je comprends à ce moment-là que si on place nos pieds au mauvais endroit, le sol s'effondrera sous notre poids. Très peu pour moi. Plus tard, pendant l'exploration, Victor m'a d'ailleurs raconté qu'une amie à lui avait failli passer à travers un plafond, sur un autre lieu.
J'ai déjà une pote qui est à moitié passée dans un autre bâtiment au travers... Alors ça va qu'on était au premier étage et du coup c'était genre la cave qui était un mètre plus bas. Mais genre elle marchait et c'était... Alors... Bon, sur le coup, c'était pas forcément rassurant, mais c'était un peu marrant la situation parce qu'on était avec trois personnes. Enfin, il y avait moi, ma pote et quelqu'un d'autre qui nous a monturé. Et genre, moi j'étais en train de dire ouais, faut bien faire gaffe de marcher parce qu'on sent genre, le bois qui courbe un petit peu. Faut bien suivre les poutres, genre les poutres principales, parce que c'est là qu'on est, on marche un peu en angle droit. Et elle dit oui, mais après en général c'est assez sûr, il se passe jamais rien. Et là, elle a genre une jambe qui est passée au travers du pas. Ce qui était pas rassurant. Après, il serait probablement. Mais quand même, c'était. On s'en est marré à posteriori. Enfin, sur le coup, on s'est marré parce que c'était nerveux et qu'elle allait bien. On s'en est un peu marré à posteriori. On était quand même un peu stressé sur le coup.
Heureusement pour moi et mon cœur, à ce moment-là, je ne connais pas encore cette histoire. Victor s'élance et je me laisse convaincre. Savoir qu'il est un habitué des lieux et de l'urbex me rassure un peu. Et je ne peux empêcher la chaleur d'envahir mon corps. J'ai peur. L'excitation et l'adrénaline m'emportent tout de même sur ma peur, et je me lance. Je ne vous raconterai pas les mouvements très peu gracieux que j'ai dû faire pour réussir à passer à travers le cadre de la fenêtre, et surtout pour en sortir. Ça restera un secret partagé uniquement avec Victor et les quelques lézards au mur. Mais ça y est, on est sur le toit. J'ai à peine le temps d'arriver que je vois des gens dans la rue, et que mon premier réflexe est de m'accroupir. Mais c'est là que Victor m'explique que personne ne nous regardera, que personne ne regarde jamais en haut.
Ah ouais, en fait on a une vue sur le toit.
D'ailleurs c'est un truc, les gens regardent très peu vers le haut.
Ouais,
ce qui n'est pas complètement surprenant. Mais alors ça c'est pas. Là, les gens, il y avait une maison. Genre, on se posait sur le toit avec des potes. Genre il y avait une échelle qui montait. On se posait sur le toit et personne ne nous voyait. Jamais. Genre les ceux qui nous voyaient, c'était ceux qui étaient derrière nous sur la colline. Mmh. Enfin genre t'avais un immeuble derrière. Et qui du coup étaient au même niveau que nous. Mais les gens dans la rue, il y en avait qui étaient à 30 mètres de nous. Et personne ne nous voyait. Des fois il y a des flics qui. Genre on était alignés avec une rue et t'avais des flics sur la rue. Ils ne voyaient pas. Parce que les gens, genre, logique, tu me diras, 99% du temps, il n'y a rien à voir en haut. Mais du coup, en général, quand t'es en haut, les gens voient. Pas grave.
Alors, on en profite. C'est étrange d'observer une ville d'en haut, après avoir été coupée du monde pendant plusieurs dizaines de minutes. Alors que j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau monde en explorant cette usine abandonnée, les gens, eux, ont continué leur vie. Sont dans leur voiture, sur le chemin pour rentrer du travail, ou sont en train de faire leurs courses. On finit par redescendre, en trouvant un autre cadre de fenêtre par lequel passer, pour éviter le trou. Alors qu'on continue l'exploration, au rez-de-chaussée, je demande à Victor s'il a déjà eu peur, en faisant de l'urbex, et notamment ici, dans cette usine.
On a eu une grosse frayeur à ce endroit-là d'ailleurs, parce qu'à un moment on est arrivé, c'était un spot qu'on allait de temps en temps, et on a trouvé deux chaises qui étaient clairement pas là la dernière fois, dont une renversée, juste en dessous d'une poutre. Gros bad. On commence à paniquer, pas trop savoir quoi faire. Bon, a priori, il n'y a pas de traces de quoi que ce soit. A priori, on sait que les flics ne sont pas venus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que quelqu'un a raté son truc. On sait pas trop, on est très très mal. On essaie de faire des trucs, genre, on est deux, on panique un peu forcément. On laisse des traces de notre passage pour dire que. On sait vraiment pas quoi faire. On a genre mis un papier avec un briquet et des numéros d'aide. Et une semaine plus tard, genre, on a parlé avec des potes, et c'est juste qu'ils étaient allés filmer un truc où ils avaient eu besoin de deux chaises. Genre, ils avaient filmé un truc pour le projet, et en partant, il y en a une des deux qui était tombée juste en dessous de la poutre. Mais on s'était quand même, sur le coup, on était quand même pas bien.
Ouais, mais j'allais dire, c'est peut-être un truc aussi dans les frayeurs que tu peux avoir, enfin, parce qu'il y a évidemment la frayeur de sa propre vie, sa sécurité, trouver des cadavres, y compris des gens qui se suicident, parce que j'imagine que ça peut arriver.
C'est quelqu'un qui s'est arrivé quand il était jeune en plus, ce qui m'a pas franchement aidé. Pour ne pas franchement aider, a priori, il a disparu avant que les flics le trouvent.
La première question ?
Genre, des gamins ont trouvé un pote quand il était gamin. Ils sont descendus dans cette espèce de vieux bunker, il a trouvé un corps. Il y avait quelqu'un dans le coin. Du coup, c'était des gamins, il y avait un type seul. Ils ont couru comme ils n'ont jamais couru leur vie. D'autant que le type gueulait, mais franchement, c'est pas bon. Et donc, quand plus tard des gens sont arrivés, il n'y avait plus le corps. Très très mauvais bail.
Je n'ose imaginer les peurs de ce gamin. Découvrir un corps et voir qu'il y a un homme qui est là, qui l'entend crier, et apprendre par la suite que le corps avait disparu quand les pompiers sont arrivés. Encore une chose à laquelle je n'ai pas pensé. Être confronté à la mort, au détour d'un couloir, d'une exploration. Je n'ose pas non plus imaginer l'état du cadavre, ni même l'odeur. Étrange endroit pour mourir. Alors qu'on revient sur nos pas, pour revenir dans la salle principale, on entend de la musique. Des graffeurs, qu'on a entendu de loin un peu plus tôt dans l'exploration, se sont installés là, avec leur musique, et sont en train de taguer quelque chose. Mon envie de les interviewer monte en flèche, et je me dirige vers eux. Hello. Est-ce que je pourrais vous déranger deux secondes? Juste, je suis en train de faire une émission radio sur l'urbex, etc. Est-ce que je peux vous poser deux questions ou... C'est le droit de dire non, hein.
Si tu veux.
Genre, il n'y aura pas de nom ou quoi, c'est genre juste.
Je vais les mettre.
Du coup, c'est, je sais pas, genre, est-ce que c'est la première fois que vous venez? Est-ce que vous taguez souvent ici, de manière générale, dans des lieux d'urbex,
Non, c'est pas la première fois qu'on vient. Je pense que ça va être la, je sais pas, la 15e fois. C'est la 20e fois on vient ici.
Ah, mais on
tag
pas.
Ouais, on tag pas souvent, mais des fois on le fait. Mais ouais, ça va bien être.
En plus, ça, on a raté puisque c'était.
Plus de 10 fois on est allé ici. Il est connu à Saint-Etienne. Je pense que c'est le plus connu, même. Très connu. Ouais, pareil, pareil, c'est plus connu.
Et parce que du coup, quand vous venez et que vous taguez pas, vous faites quoi? Juste vous balader?
Ouais, juste on explore. Parce qu'il y a toujours des nouveaux trucs, il y a des nouveaux tags aussi. Regardez en haut. Ça s'est écroulé en haut, mais avant on pouvait aller en haut. Ouais, ça s'est écroulé, on peut plus y aller. Mais. Flemme de mourir. Flemme de mourir.
Et parce que justement, quand tu dis flemme de mourir, enfin, genre, t'as des peurs un peu, genre, parfois quand tu tagues, genre, à des endroits un peu.
Non. Normalement, tu vérifies avant. Tu veux pas des trucs risqués. Sinon,
pas,
tu fais pas.
Parce que, genre là, genre, je sais pas, c'est quoi, c'est 2. C'est quoi, 20 cm entre vos pieds là pour taguer?
Ouais.
Ça vous fait pas peur?
Non.
C'est quoi, c'est une question d'habitude, genre.
Ouais, c'est une habitude, on va dire.
Et parce que du coup, vous taguez. Enfin, je sais pas ce que vous taguez, je connais. Je suis pas d'ici, ouais. Donc je. Enfin, vous taguez quoi, généralement? C'est quoi, c'est des initiales, c'est des.
Ouais, c'est un groupe.
Ok.
Le LCR, on tague. Et si tu regardes, il y a plein de noms de groupes ici. T'as le slam aussi, t'en as plein. Tu regardes, c'est que des noms de groupes. Le tiger.
Ok, ouais. Et parce que du coup, c'est quoi l'intérêt pour vous de taguer ici? Parce que du coup, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui passent. Et je sais pas si c'est les gens qui vous intéressent plus qui passent ici. Enfin, je sais pas.
On tague ici parce que. Bah, déjà, on a moins de chances de se faire arrêter si on tague ici. Et. Non, surtout c'est bien vu qu'il y en a pas mal, on en découvre des nouveaux et aussi ils nous découvrent, du coup, surtout ça nous permet de nous exprimer.
Et c'est quoi, genre. C'est quoi le truc le plus étrange que vous avez pu voir sur un lieu d'urbex?
Un urbex? Bah, ici, on était là-haut, ça s'est effondré sous nos pieds, en haut.
Mais t'as pas. Dans ce moment-là, tu fais quoi? Comment tu réagis? T'as pas peur?
Non, tu prends 5 secondes à réaliser ce qui s'est passé et après tu pars. Tu trouves une autre sortie et tu pars. Ouais, tu es content quand t'es chez toi. Non, en gros, il y en a un, il a marché et genre sa jambe l'a passée à travers et genre après il y a un gigatrou.
Est-ce que vous avez rencontré des gens un peu étranges? Genre que ce soit des SDF, des squatteurs, des autres gens qui font du Robex, hein.
Ouais, mais ils sont souvent gentils. Ouais.
Jamais rien passé. T'as pas eu de rencontre bizarre?
Non, jamais.
Et même ailleurs en Urbex, enfin même ailleurs que ici?
Non, jamais.
Ok.
À part la police, jamais.
T'as beaucoup croisé des. À la police?
Ouais, souvent. Mais après, ils disent rien. Ouais. Ils disent rien. Tant qu'ils t'ont pas pris en fait, ils vont rien dire.
Ouais. Ok. Merci beaucoup.
De rien.
C'est quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, mais effectivement, les murs sont couverts de tags. Chaque millimètre carré de mur a été recouvert par de la peinture. Comme vient de l'expliquer la personne que j'interviewais, les tags représentent surtout les mêmes groupes, et groupes au sens large, que ce soit des groupes de musique, comme des groupes militants ou politiques. D'ailleurs, Victor m'explique que c'est aussi comme ça qu'on apprend à voir qui est passé par là. Information importante sur un urbex.
Il y a le fait de lire les écriteaux, le lire assez vite, avoir quelques idées de l'architecture aussi. Après ça, en général, c'est à peu près, c'est assez fréquent en différents endroits. Mais genre, tu vois, je sais que c'est une architecture industrielle. Je suis à peu près habitué aux maisons, donc ça va. Ouais, SR, c'est pas vrai. LCR mort aux vaches. Je me demande pas si c'est pas un groupe politique ça. Alors Marx était ouvert donc je sais pas. Il y a un symbole mort aux vaches à côté, les trois petits points. Ça d'ailleurs c'est un truc à lire. Genre, les petits symboles sur les murs, ça, tu peux les lire et savoir qui est passé par là et ce qu'ils veulent. Ce qui n'est pas toujours évident. Ouais, puis lire les écriteaux, lire ce genre de trucs, c'est assez important.
Un conseil de plus donc. On continue l'exploration Et comme Victor a vraiment envie de me faire découvrir la première usine, il me propose une autre entrée, un peu plus sportive, disons. Il faut escalader un mur d'à peu près 3 mètres de haut. Victor passe en premier, en s'aidant d'une vieille corde qui était déjà accrochée. Et quand vient mon tour, il sort une corde de son sac et me permet d'escalader de manière plus sereine. Une fois arrivé là-haut, on laisse la corde et on pénètre dans le bâtiment, à travers ce qui semble être plus ou moins une tour. À peine est-on entré que Victor s'arrête, commence à ouvrir son sac et m'explique qu'il y a en fait encore de l'amiante. Il me propose un masque.
Hein ? Bah ouais, j'avoue que ma fortune explosion d'amiante. Ça protège de l'amiante.
Quoi ?
Ça protège de l'amiante.
C'est des particules. Ouais. Mais c'est particules, hein. Parce que c'est le problème de la lente, c'est que c'est des petites particules. Après, il y en a plus. Vu que c'est vieux, des fois, il y en a plus trop qui sont aéroportés, mais tout de même, c'est.
C'est mieux de porter un masque, effectivement. À ce moment-là, je vous avoue que j'en mène vraiment pas large. Entre l'escalade que je viens de faire et le fait de savoir qu'il y a des particules d'amiante dans l'air, je me rappelle de pourquoi cette expédition me faisait peur. Alors qu'on descend un escalier en colimaçon, je découvre une pièce dont le sol est couvert de documents. Cahiers, livrets, photocopies, tableaux, contrats, notes manuscrites, il y a de tout.
Tiens, regarde. C'est ce genre de document, je crois.
C'est voilà. Société française d'études et de réalisation du siège. Ah ouais, c'est fou. Et donc ça, bah, tu les trouves par terre au sol, il y a plein de documents là par terre. Ouais. Des cahiers entiers.
Des cahiers entiers, des catalogues.
Et ça, par exemple, les gens se sont jamais dit « Ah ok, on va essayer de reconstituer un peu l'histoire en récupérant ces documents et en... »
Ça prendrait un temps considérable sur des documents usés. D'autant que, comment dire, pas sûr que tu reconstitues grand-chose par rapport à ce que tu sais aussi.
Comme l'explique Victor, reconstituer toute l'histoire de ces usines prendrait un temps considérable, à partir des documents seulement. Mais ces documents sont malgré tout intéressants. Et tel une enfant, j'ai l'impression de découvrir des indices dans une chasse au trésor. Parce qu'il a donc par exemple tombé sur le bon de livraison numéro BE0401228 du 12 octobre 2004. Voilà. Et c'était 6 écrous LR qui ont été livrés. L'exploration continue, et je finis par poser la question à Victor. Quel est le lieu où il s'est senti le plus bizarre? Le lieu d'urbex le plus étrange? Où l'étrange était partout? Après une longue réflexion, et après m'avoir raconté beaucoup d'histoires, décrit plusieurs lieux, il finit par s'accorder sur un lieu en particulier.
Je pouvais rentrer dans ce qui était une espèce d'ancien atelier slash salon slash salle de bain, mais c'était bizarre parce que t'avais pas d'accès au reste de... Et ouais, t'avais genre des photos et c'était le bordel. T'avais des bannières pour des routiers, pour les RTT. Des plots, plein de trucs. C'était très rempli, c'était un peu bizarre parce que les lieux de vie, ça m'a toujours un peu fait un effet particulier. Genre, une usine, c'est différent. Mais un lieu de vie, ça fait bizarre quand même. Genre, c'est toujours un endroit qui est un peu mal à l'aise. Une usine, je m'en fous parce que, genre, voilà, vous voyez, mais c'est peut-être pas la même attache, c'est peut-être pas le même symbole. Tu te dis pas. C'est bon. Alors, un lieu de vie, dire qu'il y a des gens qui ont vécu, qui sont ailleurs maintenant, ou peut-être qui sont morts, c'est.
Un lieu de vie, ça fait bizarre. Je crois que c'est là-dessus que je voulais conclure. Parce que la pratique de l'exploration urbaine en soi peut être considérée comme étrange. Aller sur des lieux abandonnés, explorer, découvrir des documents pour comprendre l'histoire du lieu, analyser l'architecture, faire des rencontres, observer les tags sur les murs, la végétation qui reprend le dessus. Mais je crois que cette forme d'urbex, dans des lieux comme celui où on est allé, des usines, des parcs d'attractions, des écoles, c'est étrange, et ce n'est qu'une première étape, un premier niveau d'étrange, un étrange un peu à distance. Après tout, les lieux étaient occupés, mais pas habités. Je me demande ce que ça fait d'aller faire de l'urbex chez des gens. Dans des immeubles, des maisons, là où, comme le disait Victor, les gens ont vécu. Là où demeurent peut-être encore des souvenirs de cette intimité. Des photos, des lettres d'amour, des dessins d'enfants. Je crois que cet étrange-là, elle est trop étrange pour moi. Mais peut-être que c'est justement pour ça que la prochaine fois, on poussera l'étrange plus loin encore, là où l'étrange infiltre l'intimité.